Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, Ésaïe, chapitre 65, verset 8. J'ai intitulé le message que nous allons partager ensemble, méditer. Je l'ai appelé les raisons de l'espoir. Nous vivons dans une société qui est anxiogène. Vous le savez aussi bien que moi, puisque vous êtes au fait de la situation à l'extérieur, sur le plan mondial, sur le plan sociétal, familial. Alors je m'arrêterai là, puisqu'il y en a quand même pas mal, naturellement. Mais je crois qu'il y a aussi dans le cœur des chrétiens, probablement, ces inquiétudes, ces soucis, ces questionnements, ces perplexités de notre temps. Et vous savez que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit « Vous savez en quel temps nous vivons ?» C'est pas trop difficile de se renseigner, de s'informer. Et c'est vrai qu'on est solitaire sur cette terre, il n'y en a qu'une. Hein. Certains ont peut-être pensé qu'ils pouvaient fuir sur la Lune ou sur Mars, mais c'est pas encore demain la veille. Mais toujours est-il qu'on est tous enfermés, comment pourrait-on dire, dans le même bateau. Et avec toutes les tensions, toutes les convoitises, toutes les haines, tout ce qu'il peut y avoir, eh bien, est une source pour l'homme, eh bien, de désespoir. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a aussi l'autre version. Et elle est aussi devant nos yeux. Jésus nous le dit de sa bouche. Dans les derniers jours, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, faisaient ceci, faisaient cela, comme si il n'y avait rien du tout. Donc, on s'aperçoit qu'il y a véritablement les deux situations. Soit c'est l'inquiétude à l'extrême, poussée au paroxysme, ou alors c'est tout simplement un désintérêt, une désinvolture, la gravité de nos temps. Alors que ce soit en collectif, je viens de le signaler, ou que ce soit en singulier, c'est-à-dire moi, personnellement, et je sais que les chrétiens ne sont pas exemptés de l'inquiétude et de l'angoisse. C'est pour ça qu'un dimanche matin où nous nous retrouvons ensemble, nous ne sommes pas là pour geindre et nous plaindre, nous sommes là pour bénir Amen. Jésus, parce Amen. Qu'il est notre victoire.
Gloire à Dieu.
Et ça, c'est écrit aussi. Alors, moi, je voudrais encourager à porter une parole de consolation. Je l'ai sur le cœur et je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme tout à chacun, on traverse des moments difficiles dans la vie. Pour certains, ce sont des situations professionnelles, sociales. Pour d'autres, peut-être, ce sont des difficultés qui touchent à notre famille, à nos enfants. Peut-être à notre couple, peut-être dans d'autres situations, mais il y a quelque chose qui nous touche à un moment ou à un autre de l'existence, c'est notre santé. Et nous nous apercevons que, on n'est pas mis à l'abri, on n'est pas à l'abri, c'est parce qu'on est chrétien, on ne peut pas dire « moi ça ne m'arrivera pas ». Ne disons pas cela parce que c'est pas forcément, il y en a un qui est souverain sur toute chose, c'est le Seigneur. Et quelquefois, il utilise ce genre de discipline divine pour nous dire quelque chose que nous n'avons peut-être pas su ou voulu entendre dans d'autres circonstances. Alors n'ayez pas peur. Le message de ce matin n'est pas un message de jugement, de condamnation. C'est un message de consolation, un message d'encouragement. Je vous connais à peu près tous, Et je sais par où vous êtes passés. Je sais qu'il y a des fardeaux, il y a des difficultés, et je crois que vous avez, et nous avons besoin, d'entendre cette parole, et je vous en donnerai la raison d'ici. d'ici un instant, c'est que pour moi, ça a vraiment été une révélation de Dieu. Quand je dis révélation, c'est vraiment une révélation. Et nous avons besoin de ne pas mépriser les prophéties. Et nous avons besoin de ne pas mépriser les dons spirituels. Il y a les fruits, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Mais je vous parle des fruits spirituels, les fruits du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit. Alors, Ésaïe, vous l'avez votre Bible ouverte, chapitre 65, verset 8. Écoutez bien. Ainsi parle l'Éternel quand il se trouve du jus dans une grappe. On dit, ne la détruis pas. Imaginez-vous la scène, hein. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas. Ça serait insensé. Car il y a là une bénédiction. Entendez bien. Et Dieu ajoute, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Et moi j'ajoute, pour l'amour de mes enfants. Pour l'amour de ceux qui me craignent. Entendez, le crainte, c'est le respect de Dieu. Ce n'est pas le tremblement. Pour l'amour de mes serviteurs, parce qu'ils me connaissent et je les connais, afin de ne pas tout détruire. Vous savez, quelquefois, dans le monde, la terre a été à plusieurs occasions, eh bien, à deux doigts d'être détruite, dans les guerres, surtout, à travers des tremblements de terre, à travers des séismes, à travers des tsunamis, à travers des choses qui peuvent venir du ciel ou qui viennent de la terre, enfin bon, de notre planète. Quelquefois, c'était à deux doigts. Et peut-être que nous sommes encore à n'avoir rien vu. C'est possible. Maintenant, moi, je ne fais pas de prospective. Mais toujours est-il qu'il y a bien, afin de ne pas tout détruire. Figurez-vous que ce Dieu qui nous a créés n'est pas là pour détruire ce qu'il a créé. On est d'accord. Et d'autant plus l'Église. Parce qu'il y a quand même une différence significative entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ça, c'est la chose qui est importante à dire. Je voudrais introduire notre message par trois versions. Ça, c'est la première. Trois versions de la Bible, classique seconde. Il y en a une qui est en français courant, qui nous dit ceci. Quand on trouve dans une vigne une grappe bien juteuse, on dit, laissons-la intacte. Laissons-la intacte, car elle promet du bon vin. Ainsi Dieu ajoute, j'agirai pour mes serviteurs et je les garderai intacts. Nous n'avons rien à craindre de tout ce qui peut se passer dans le ciel et sur la terre, de tout ce que nous pouvons être en face de difficultés, de tribulations, de toutes sortes de choses, je les garderai intacts. Pas un seul cheveu ne tombera de la tête de mes disciples. Comptez vos cheveux demain matin et recomptez-les toute la semaine. Et vous viendrez me voir pour faire le bilan. Il y a une autre traduction qui dit ceci. Quand le mou se trouve dans la grappe, il est dit, ne la détruisez pas. Oui, une bénédiction est en elle. Même dans un dernier souffle, dans la poitrine d'un humain, même un dernier souffle, tout peut repartir. Même dans un ménage qui se casse et qui se brise en mille morceaux, devant la face de Dieu, il y a un espoir. Même devant un enfant malade que nous rencontrons là dans les services d'urgence et que l'on diagnostique qu'il n'y a plus rien à faire, il y a encore un espoir.
Amen.
Même lorsqu'une église va mal, qu'elle a été divisée, subdivisée, il y a encore un espoir. Parce que l'église, elle n'est pas à nous, elle est au Seigneur. Elle est l'épouse, elle est la fiancée. Et puis toutes sortes de déclinaisons comme ça que nous pouvons faire. Il y a encore une bénédiction en elle. Ainsi je ferai pour mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Dixit, pour ceux qui connaissent le théologien, Chouraki. D'accord ? Ce sont quand même des références qui sont plausibles. Et puis je termine avec une troisième. Tout comme lorsqu'on trouve une grappe pleine de jus, on dit ne la détruis pas, car c'est un fruit béni. Ce que je vois, moi, est une chose. Ce que le Seigneur voit, même quand il y a le dernier soupir qui n'est pas loin, Dieu dit, c'est un fruit béni. Et c'est vrai, dans tous les cas de figure, même une église qui souffre, même une église qui est là, bousculée, même une église persécutée, une église délaissée, abandonnée, le Seigneur est toujours là. Le Seigneur est là. J'agirai ainsi afin qu'elle ne soit pas détruite. J'ai fait une expérience quand je suis arrivé à Saint-Nazaire, parce que je suis arrivé à Saint-Nazaire, j'étais pas bien. Quand je suis reparti là, quand j'ai donné finalement ma retraite, quand j'ai pris ma retraite, j'étais pas bien aussi. Le Seigneur me réserve toujours des entrées et des sorties un peu particulières. Mais peut-être qu'il fallait que j'y passe. Et je me souviens que, avant de quitter l'église précédente, à Angers, j'étais dans un état catastrophique. Et j'ai dû prendre la suite ici. Et dans des conditions qui n'étaient pas simples. Et c'est vrai que, à ce moment-là, avec Myriam, nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur qu'il nous aide, parce que moi je me sentais complètement incapable. Bon, j'avais un problème d'adénocarcinome, ce qui a anticipé sur la sortie. Et j'ai été traité, j'ai été soigné, mais j'en étais à ne plus pouvoir manger qu'un petit biscuit avec un petit peu de lait, comme ça. Je suis arrivé, j'étais pas obèse. Mais j'ai repris, comment dit-on, du poil de la bête. Ça durait quand même des mois et des mois. Et il y a eu cette parole que je ne connaissais pratiquement pas dans la Bible, pour l'avoir lu certainement peut-être nombreuses fois, mais je n'avais pas compris. Et là, c'est là où il y a le don spirituel. C'est là où il y a la vie de l'esprit. Ainsi parle Dieu, ton Dieu, quand il se trouve du jus dans la grappe. Eh oui. Alors, on dit surtout ne la détruis pas, parce que c'est pas fini. Hein. Non seulement c'est pas fini, mais ça commence une autre aventure. Il faut toujours avoir la perspective que quand véritablement, eh bien là, on est presque au fond du réservoir de carburant, eh bien le Seigneur est capable de le remplir. Hein. Mes frères et sœurs, hein, croyez-le. Hein, car il y a là une bénédiction. Moi, je ne sais pas ce que vous avez reçu, mais moi, j'ai reçu une bénédiction en venant à Saint-Nazaire. Pourtant, je tirais la langue. Il y a là une bénédiction et il y a cette parole qui est pour tous, pas seulement le pasteur. Mais il y a cette parole, j'agirai de même pour mes serviteurs. J'agirai de même pour mes enfants. Les enfants que vous êtes de Dieu, ne baissez pas les bras. Regardez, non pas aux circonstances, mais regardez au Seigneur. Afin de ne pas tout détruire. Le Seigneur qui vous a appelé, il n'est pas venu pour vous détruire. Il vous a appelé et il va vous donner, même dans les moments de difficulté, de sécheresse, de désert, là où l'eau tarit dans votre ruisseau de vie, eh bien, il est capable de vous redonner un autre souffle. Et qui sera un souffle aussi pour les autres. Parce que c'est jamais pour vous personnellement. Cette expérience, je l'ai fait deux fois. Quand, entre 2017, là c'était sur la fin de mon ministère ici, jusqu'en 2019, j'ai été opéré quatre fois. Une fois, mais c'était pas bon. Heureux, je retourne 8 jours après à l'hôpital, en urgence. Une deuxième fois, pas bon, retourne à l'hôpital. C'était pas pour la même chose, hein, cancer. Et je sais que le matin, quand le chirurgien est venu me voir tout de suite après le lendemain matin, il m'a dit, monsieur Roy, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une moins bonne. Il a dit, j'ai pu faire ce que je devais faire avec la première intervention, mais la deuxième, c'est un cancer. Et je me souviens, alors il y avait quoi espérer encore, hein, ce que nous n'est jamais sans espérance. Et je me souviens que vers les 10 heures le matin, je l'ai raconté à ceux qui étaient là dans ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Et je me souviens qu'à un moment donné, vers 10 heures le matin, j'ai été saisi. Je ne suis pas un mystique, hein, vous n'allez pas vous imaginer que je suis entre le ciel et la terre. Mais non, je ne suis pas mystique, je ne crois pas en tous les cas. Et là, j'ai été saisi par une joie, par une onction du Saint-Esprit. Quelque chose qui m'a vraiment, on pourrait dire, j'étais toujours au lit, hein, mais quelque chose qui m'a vraiment réconforté. Il y avait cette parole de Dieu qui me disait et qui me recouvrait de la paix de l'esprit. Je sais que certains vous l'avez vécu, soit avant une opération ou après une opération, ou à travers des grands dangers que vous avez connus. Ouais. Quand il se trouve encore du jus dans la grappe, parce que c'était pas fini, hein. Quand il y a 3 ans, ouais, on a cherché quand même, finalement, à comprendre tout ça. Mais cette joie, elle était là. Et moi, je crois que ce qui est rappelé ce matin, c'est du pratique, hein, c'est pas de la théologie, voilà. Mais c'est pour vous encourager, mes frères et sœurs. C'est un témoignage que je rends. Maintenant, on va rentrer peut-être un petit peu dans l'explication. Quand il est écrit ceci, Ésaïe écrit cela, il parle du... C'est une image d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple élu, peuple qui est en désolation et qui est réduit à vivre dans l'indigence morale et spirituelle. Il n'y a plus grand-chose. Hein. On arrive en fin de course. Et pourtant, la période d'Ésaïe, qui a été un grand prophète, a duré, je crois, un ministère de 40 à 50 ans. Hein, il a été prophète dans l'espace de 4 rois, finalement, en Israël. C'est déjà pas mal, hein, ça. Hein. Et l'état moral, l'état politique, et surtout l'état spirituel, c'était la décadence. Chacun faisait ce qu'il se lui semblait bon, parce qu'il y avait des rois, mais ce n'étaient pas des rois. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Enfin, ça, c'est une citation que nous trouvons aussi. Mais dans toutes les situations auxquelles nous pouvons être confrontés, et ça, c'est notre espérance, mes frères et sœurs, quand nous disons « ça ne va plus », il n'y a plus rien, c'est pauvre, c'est la déliquescence, c'est ceci et cela, je voudrais quand même vous le rappeler, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et il y a toujours un petit reste. Vous avez entendu parler de ça dans l'Ancien Testament, où Dieu dit « je me servirai du petit reste ». Je me servirai finalement de ce qui est encore une petite semence, mais qui va pousser et qui va produire jusqu'au centuple le petit reste, une espérance de renouveau et de bénédiction. La bénédiction n'est pas finie pour cette Église. La bénédiction est encore là. Elle est quelquefois voilée. Elle est enténébrée. Nous l'avons vécu, nous qui avons été là, il y a 15 ans en arrière. Parce que ceux qui viennent d'arriver ne peuvent pas comprendre. Et c'est normal, c'est pas de leur faute. Mais quand on a vu certains états, certaines choses, des scandales moraux que nous avons dû traiter, et que pour certains, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas su parce qu'on ne l'a pas dit. Ce n'est pas la peine d'allonger le péché pour que tout le monde se souvienne. Quand on a vu des révoltes, des divisions, par avidité de certains qui se disent pasteurs et qui ne le sont pas, autant proclamés, et qui voulaient à tout prix bousculer les autres pour prendre la place. Mais la place, ce n'est pas nous qui l'avons pris pour nous, c'est le Seigneur qui nous a appelés. C'est ça la grande différence. Et nous nous apercevons que dans tout cela, eh bien, il y a un renouveau et une bénédiction. Et nous passons à ce moment-là de l'abattement à l'espérance. Eh oui, de l'abattement à l'espérance. Écoutez, vous êtes un petit peu dans le brouillard en ce moment. C'est normal, c'est l'hiver. Mais peut-être que vous êtes dans un état où vous n'êtes pas bien, spirituellement parlant. Moralement et spirituellement parlant, parce que vous dites, mais je ne retrouve pas mes marques. C'est plus comme avant. C'est plus ceci et cela. Croyez bien que de toute façon, si Dieu le permet, c'est que c'est permis. Écoutez, moi, il y a une chose aussi qui m'a fait du bien lorsque je plongeais Mais vraiment, à la tête la première, hein, sans casque. Il y a cette parole du psaume 42 qui nous dit ceci. Pourquoi t'as battu mon âme? Vous avez l'âme abattue de temps en temps? C'est dur le matin quand on se réveille. Hein. Ouah! Quand vous prenez le petit déjeuner et vous mettez du sel à la place du sucre. C'est amer, c'est pas bon. Ça donne soif. Hein. Écoutez, pourquoi t'as battu mon âme? Au lieu de le dire à tout le monde, au lieu de le crier, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, ben plus je crie, je ne suis pas bien, moins je serai bien. Mais par contre, je peux me le dire à moi. Écoutez, pourquoi t'as battu mon âme? Moi, ça m'arrive de me parler à moi-même. Quelquefois, ma femme m'a dit, mais pas bien. Il se parle à lui-même, qu'est-ce qui lui arrive? N'est-ce pas? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de toi? Ou gémis-tu au-dedans de moi? Parce que c'est la forme promonimale. Oh, pas pour moi. Vous comprendrez. Voilà. Et c'est ça, justement. Hein. Espère en Dieu. Oui, espère en Dieu. Je n'ai pas envie d'espérer quand je ne suis pas bien. À quoi ça sert? Je ne me sens pas. Si nous devons espérer en Dieu que quand tout va bien, ben, on n'est pas prêt d'arriver au bout. Hein. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Oui, je veux te louer quand ça va bien, et je veux te louer quand ça va mal. C'est pas facile. Et c'est pas de la rigolade. C'est pas du fanfaronnade. C'est véritablement un désir où Dieu nous dit, je crée en toi le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir, Seigneur. Alors crée en moi tes dispositions. Il est mon salut et mon Dieu. Il est toujours mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. L'abattement. Ah, c'est pas simple hein, quand on est abattu. Parce que les choses changent dans la vie. Elles ne sont jamais pareilles. Nous avons un bel exemple que je voudrais citer d'une expérience cruciale dans la vie d'un homme qui s'appelle Abraham. C'est le sacrifice d'Isaac. Et pourquoi? Je ne vais pas relire le texte, mais vous le connaissez. Dans l'application de cette expérience, Abraham était un homme béni de Dieu. Un homme qui obéissait à Dieu. Un homme qui a fait de belles expériences avec Dieu. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, tu vas me sacrifier ton fils. Ça, c'est notre affaire. Se sacrifier soi-même, ça va. Quoique, c'est pas simple. Mais sacrifier véritablement la chair de ta chair, c'est une autre affaire. Et vous savez que dans les Romains, au chapitre 4 et au verset 18, vous savez comment il nous en est parlé d'Abraham et du sacrifice de son fils? Et écoutez, ça se résume en une phrase très courte. Hein. Au chapitre 4 et au verset 18, en parlant d'Abraham, hein, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Grande et immense sera ta postérité. Écoutez bien, espérant contre toute espérance. Moi, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que voulait dire espérant contre toute espérance? Ça paraît un non-sens. Eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Espérant contre toute espérance, et Dieu vous dit, espère contre toute espérance. Crois encore. Crois toujours. Crois sans doute. Et là, c'est pas humain. C'est quelque chose dont on va expliquer à la fin du texte. Abraham nous est rapporté le texte sous la plume de Paul. Il crut sans faillir dans la foi. Et ça, c'est pas facile. Quand vous avez mal, quand vous brûlez à l'intérieur, quand vous avez une souffrance, quand vous avez perdu quelqu'un qui vous est cher et que vous ne pouvez pas vous passer de la personne parce que c'est véritablement l'être qui est auprès de vous, qui est sorti peut-être de vos entrailles ou celui qui vous a, ou celle qui vous a accompagné. C'est terrible le vide, hein? Surtout quand c'est brutal. Et je crois que ça, c'est difficile. Espérant contre toute espérance. Et nous avons à ce moment-là, avec Abraham, les résultats et les fruits qui nous parle que nous faisons face à l'impossible, et il faut une solide attitude de conviction à l'intérieur de nous-mêmes. La conviction, ça ne se prépare pas au dernier moment, comme une boîte de sauvetage ou un extincteur en cas d'incendie. Ça se prépare maintenant. Et ça se prépare dans l'exercice, parce que vous avez des tribulations, parce que vous avez là toutes sortes de choses qui vous arrivent, mais ce sont des petits remèdes de préparation à dose homéopathique, le jour où, parce que nous avons forcément tout cela, parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça, mais n'allez pas penser, mes frères, que Dieu vous rejette, c'est faux. Et ça, moi, je voudrais marteler. Il ne vous rejette pas, il ne nous a pas fait sortir de notre Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Vous y croyez, hein? Eh oui, il faut le croire. C'est une conviction qu'en plus rien ni personne ne peut changer le cours des choses parce qu'elles sont inéluctables. Nous pouvons être les artisans de ces situations. Et là, on passera forcément par une certaine prise de conscience, une confession, une repentance. Mais c'est quand même à notre portée. Parce que je vous dirais même, la repentance, elle vient pas de nous, c'est encore l'Esprit de Dieu qui va nous pousser à la repentance. Et c'est encore pour notre salut, c'est encore pour notre dégoût. Il est bon, hein? Et nous voyons qu'il crut contre toute espérance. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà son âge. Je ne sais pas quel âge il avait, mais quand on est papa à 100 ans, et là, vous effrayez toutes les caisses d'allocations familiales. Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est comme ça. Quand votre épouse, qui était un petit peu plus jeune, s'appelle Sarah et qu'elle est stérile, comme beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament, Sarah, les unes et les autres, Rebecca, etc., etc., naturellement, elle est stérile, espérée contre toute espérance. Une si longue attente pour Sarah et Abraham, environ 25 ans d'attente, 25 ans d'attente d'un bébé. C'est pas mal, hein? Normalement, une grossesse, c'est 9 mois, non? Mais une grossesse de 25 ans, c'est pas mal. Alors, ce sera un gros, gros, gros bébé. Et surtout, quand ça repose sur une promesse. Et pas une promesse mise dans la tête à Abraham, une promesse qui vient de Dieu. Tu auras un fils. Ce sera le fils de la promesse. Et le fils de la promesse ne vient pas. Alors là, vous avez de quoi douter. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu me l'as dit, je crois ou je ne crois pas. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça ne va pas se faire? Pourtant, j'ai une conviction forte. Mais oui, vous avez une conviction forte. Eh bien, gardez-la, cette conviction forte. Et ne vous laissez pas polluer par toutes sortes de choses qui viennent finalement et qui entachent votre paix et votre sérénité. Naturellement. Et Abraham, devant un choix pathétique, il est entre deux espérances. Écoutez bien. C'est important de pouvoir décoder un peu ce texte. Il est entre deux espérances qui se contredisent. Et c'est bien ça notre condition d'homme, notre condition terrestre, notre condition matérielle sur cette terre. Il y a une espérance d'un côté, une espérance de l'autre, naturellement. Il y a celle qui est de la chair, religieuse peut-être, pourquoi pas, superstitieuse, allons le dire, bah, pas chez nous. Mais pour le reste des hommes. Donc, il y a celle de la chair et de la nature qui est synonyme d'impuissance et de désespoir. Seigneur, je vois rien arriver, j'y crois plus. Quand il y a encore un peu de jus dans la grappe, ne dis pas, détruis-la. Toujours le même refrain qui est en arrière-plan. Hein. C'est le doute, c'est l'incrédulité qui fait son. Incrédulité avérée qui fait son âme. Qui est entaché, en finale, de déception et d'amertume. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé tomber. Dieu ne veut rien faire pour moi. J'ai dû certainement commettre quelque chose qui ne va pas. Ou alors, je ne suis pas un bon chrétien. Ou alors, eh bien, il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas conformes. Ne laissez pas le diable vous suggérer des sottises. Parce que lui, il appuie dessus. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a l'autre, deux espérances. La première, je viens de la dire. La deuxième, l'autre, c'est celle de la foi. Mais pas n'importe quelle foi, on va le voir. C'est-à-dire dans l'unique source et la confiance dans la promesse divine qui vous a été donnée. On a eu des déclarations de Dieu sous forme de promesses, voire même de serments, mais enfin de promesses en tous les cas, on va être plus simple, où véritablement on a fait une expérience. Et avec le temps qui passe, elle s'est peut-être érodée, vous savez, comme les montagnes. Elle a peut-être diminué. Et puis au bout d'un certain temps, on l'a oublié. Tu es capable de la réveiller. Mais il faut la garder quand même au fond de son cœur. Il ne faut pas désespérer. On dit, ne la détruis pas. Et ne sois pas toi l'agent qui a reçu cela, parce qu'il y a quelque chose. Il y a une bénédiction derrière. Hein. Il y a du bon vin. Et vous savez que le vin, c'est l'image de la joie. Enfin, du calme et du sang-froid. Parce que vous connaissez, il y a un petit instrument, là, c'est comme un petit pipeau, soufflez dedans, puis vous retrouvez au ballon. Enfin. Ah là 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 là. Confiance en la promesse divine. Et il nous est donné, dans le livre des Hébreux, cette petite phrase, que en ce qui concerne les hommes d'hier, ils ont préféré une meilleure espérance. Vous l'avez aimé ce texte, cette petite expression. Ils ont préféré une meilleure espérance. Ils ont préféré une espérance qui coûte pour s'accrocher qu'une espérance passagère et qui nous amène qu'à la déception. Une meilleure espérance parce que cette expérience-là, elle est victorieuse. Elle est positive parce qu'elle rend les choses, disons-le, impossibles, possibles. Et c'est ce qui fait les grandes expériences de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours le même credo là, tout, du début jusqu'à la fin. C'est vivre des choses fortes. Pas toujours, mais c'est vivre des choses qui nous entretiennent et qui stimulent notre foi. Et parce qu'ils stimulent notre foi, je vais faire des expériences. Et quand je rencontrerai des gens malheureux, je pourrai leur dire, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, eh bien il peut le faire pour vous. Et vous allez booster les autres. C'est la vocation des églises évangéliques de chez nous. Hein. Est-ce que l'on rend témoignage encore? Ou est-ce qu'on rend témoignage uniquement sur la doctrine? Dieu a dit, ça n'intéresse pas les gens. Excusez-moi. C'est un langage, un patois de Canaan. Par contre, quand vous dites « Moi, le Seigneur a fait ceci, moi, le Seigneur a fait cela pour moi », sans vanité, hein. Quand on sait que les gens sont dans la misère et le malheur, vous leur donnez de l'espérance de savoir ce que Dieu a fait pour vous, eh bien, ils vont prendre confiance de ce qu'il peut faire pour eux. Ça, c'est un témoignage vivant. Ça, c'est quelque chose d'important. Pas quelque chose de, finalement, qui gêne. Parce que cette foi-là, elle est de nature miraculeuse et prodigieuse. Et j'y arrive, au miraculeux. Sans voir le miraculeux comme quelque chose de mystique. Hein. Et on va l'expliquer. Abraham s'est trouvé pris entre deux feux. La chair et l'esprit. Parce que le premier feu, il s'éteint à un moment donné. Il ne reste pas grand-chose. Il finit dans l'incrédulité. Il finit dans le doute. Il finit dans l'amertume. Et le deuxième, eh bien, il s'enflamme. Et c'est ce qui fait que finalement, eh bien, le chrétien, plus il va, plus il grandit. Les choses extérieures s'éteignent, mais les choses intérieures se modifient et évidemment, eh bien, elles se renouvellent, tout simplement. C'est ça, la composante. C'est l'espérance de la raison, et ça va pas loin, c'est la logique. Et puis il y a celle de la foi. Abraham rejette la première pour s'appuyer sur la seconde. Un homme de foi. Et quand l'espérance terrestre s'effondre, alors, sans nous laisser troubler et tourmenter, c'est celle d'en haut, l'espérance d'en haut, qui trouve sa place dans nos cœurs. Il faut faire le vide à un moment donné. Il nous est dit qu'il n'y a pas de place pour le Seigneur dans notre cœur. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Capito. Ainsi, je termine. Ainsi, à juste titre, Abraham est appelé. Comment il est appelé? Pardon, j'entends pas. Maman. Le père de la foi. C'est ce que vous avez dit.
Oui.
Bon, alors, excusez-moi, je suis le père de la foi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est dit très souvent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament en particulier? Que sa foi lui fut imputée à justice. Eh oui. C'est pour ça qu'il est le père de la foi. C'est pour ça qu'il reste le modèle. L'homme, pas un surhomme, mais l'homme, vraiment, qui occupe un tel espace dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Il a sa place aussi dans le Nouveau Testament, naturellement, comme le modèle et l'anticipation, la préfiguration, la typologie, si on peut dire, finalement, et bien là, de ce que nous avons besoin de savoir et de nous laisser enseigner par Abraham, tout simplement. Imputé à justice, c'est-à-dire justifié de sa confiance en Dieu seul, étant nettoyé de toutes ces miasmes, toutes ces choses qui sont négatives, que nous trouvons dans l'Église et qui fournissent dans l'Église et qui quelquefois nous sont fournies, par les uns et par les autres. Parce qu'il y a de véritables expériences spirituelles, je peux vous dire qu'il y en a des fausses. Ah oui, le Seigneur m'a dit, le Seigneur a ceci et cela, attendez, il y en a qui sont en direct, il y a longtemps qu'ils ont dépassé Jeanne d'Arc. Hein. Mais, alors, la confiance en Dieu seul, il faut fermer nos cœurs, et on nous demande toujours de les ouvrir, et nos yeux, sur les choses visibles, pour les diriger et les ouvrir sur celles qui sont invisibles. N'est-ce pas l'apôtre Paul qui le dit dans Romains, chapitre 8 ou chapitre 12, je ne me souviens pas, que les vicissitudes de cette terre ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Eh oui, ce sont des textes extraordinaires. Alors je vais terminer par ce que j'appellerais le secours providentiel qui nous est donné. Vous croyez bien qu'après 2000 ans de christianisme, je voudrais l'affirmer, les choses ne sont pas passées. Et vous savez de quoi je parlais? C'est le don spirituel de la foi. Et je voudrais quand même dire, selon la doctrine, c'est important de connaître la doctrine, je voudrais dire que c'est un don de puissance et d'autorité. Il y a dans les dons spirituels, il y a les dons d'inspiration. Alors je vous les cite. Il y a donc la prophétie. Il y a également le don d'interpréter, parler en langue. Parler en langue, ils sont dons d'interprétation. Inspiration. Voilà. Il y a le don de révélation, parole de connaissance, discernement des esprits. Et paroles de sagesse. C'en est un autre. 3, 3, 6. Et les trois qui sont au milieu, c'est une parole de puissance et une parole d'autorité. Il y a la parole de foi, il y a la parole de guérison divine. Et puis la troisième, dites-moi, aidez-moi. Le miracle. Donc, parole de miracle. Voilà. Et moi, je voudrais vous parler du don de la foi. Qu'est-ce que c'est que le don de la foi? Alors, je remets les choses en place. Il faut distinguer, il y a trois sortes, il y a trois catégories. Il y a le don spirituel de la foi, reste sur la foi. Il y a la foi qui sauve, je crois donc je suis sauvé par Jésus-Christ. Ça c'est, on pourrait dire, un don de positionnement. J'ai accepté, je suis sauvé, c'est tout. Et puis il y a la foi fruit, qui est là, non pas un don, mais qui est un fruit, fruit de l'esprit. Et nous retrouvons tout cela, naturellement, le troisième, c'est celui pour le caractère, le développement, la sanctification, la régénération, naturellement. Et il nous est donné, et moi je voudrais quand même le resituer dans son contexte, il est dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1er, chapitre 12, pardon, et verset 7, il est dit ceci, et je relis, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » À partir de ce matin, si vous n'avez jamais finalement été interpellé par ce texte, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Et un peu plus loin, verset 7, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi. » Et ce que nous avons besoin, frères et sœurs, et nous pouvons le demander puisque ça a été donné, c'est pas en location. C'est un don ponctuel. Et quelquefois, on oublie celui-ci. Et on peut le demander, non pas par vanité pour rouler les mécaniques devant les autres en disant « je suis plus spirituel que vous », ça c'est de la folie, c'est une sottise. Un chrétien qui pense ça, c'est une sottise. Parce qu'il nous est dit que de toute façon, ça nous a été donné. Et que nous avons même, eh bien, l'explication peut-être plus précise, que Dieu distribue ses dons comme il le veut, comme il l'entend. Mais néanmoins, nous avons, ou pouvons faire aussi des expériences lorsque nous sommes malheureux, lorsque nous sommes dans une détresse, lorsque ça dure depuis je ne sais pas des années, mais priez mes frères pour que Dieu vous donne une révélation, qu'il vous donne le petit coup de pouce. Et c'est une manifestation, je le répète, surnaturelle, soudaine et ponctuelle. Et nous avons cet encouragement, si véritablement nous sommes là un petit peu en décomposé, ça plus, on ne sait plus où on en est rendu, il nous est dit, mais aspirez aux dons spirituels. Mes frères et sœurs, qui passaient par des moments difficiles, aspirez aux dons spirituels. Aspirez à ce que Dieu vous donne, eh bien, la petite aide. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. S'il reste encore un peu de jus dans la grappe, Dieu dit, mais ne détruis pas, parce qu'il y a encore derrière une bénédiction. Vous voulez rater la bénédiction, vous voulez rater finalement ce qui est le meilleur et l'excellent dans votre vie pour demain. On va de progrès en progrès de toute manière. Dieu ne va pas vous les donner tous les jours, hein, parce que quelquefois on a vu des chrétiens qui véritablement ils ne vivent que dans la stratosphère. Ils sont déjà plus hauts que les satellites. Hein. Mais qui ne vivent qu'avec ça. Mais on ne vit pas qu'avec une chose dans la Bible. La Bible est remplie de trésors et c'est à nous d'aller fouiller, comme Jésus le dira, un bon scribe, un scribe qui est sage, eh bien, il prend tous les trésors et il les utilise. Aspirez aux dons spirituels. Vous passez par des mauvais moments, vous sentez que le jus diminue dans votre grappe, dans votre vie en quelque sorte, dans votre vie spirituelle, eh bien, ranimez le don de Dieu. Ranimez-le. Mais pour le ranimer, il faut lui demander. Si vous attendez passif, vous ne verrez jamais rien. Et cette Église a besoin d'être ranimée dans la vie de l'Esprit. Oui, elle a besoin. Parce que si on n'y prend pas garde, à un moment donné, on va devenir de bons religieux. Et il ne restera plus rien. Plus grand-chose en tous les cas. Aspirer au don de l'Esprit. Et cette définition du don de foi, c'est tout simplement la capacité surnaturelle que Dieu nous donne. Seigneur, donne-moi un petit coup de pouce. Donne-moi ceci et cela. Donne-moi ta grâce. Capacité de croire sans douter qu'une chose arrive et qu'une chose va arriver alors que les circonstances sont absolument opposées et contraires, humainement parlant. Vous voulez un exemple ? Daniel dans la fosse aux lions, en train de caresser ses petits chats. Et ils avaient des dents. Et des griffes. J'avais oublié. Vous avez un autre exemple ? Paul, à Malte, la vipère. Il avait certainement une connaissance que Jésus avait donnée dans son héritage, dans son témoignage spirituel dans Marc chapitre 16. Verset, je ne m'en souviens plus. Mais toujours est-il, ils saisiront des serpents et ne leur feront point de mal. Ils boiront des breuvages mortels et ils n'en seront pas indisposés. C'est ça, hein ? Quand Pierre et Jean vont à la belle porte du temple et qu'ils voient cet homme qui est paralysé, ils vont lui donner une parole. C'est une parole de foi, comme à l'Istre. Et là, à ce moment-là, le miracle se produit. Et Paul, il nous est dit dans les Actes, Paul, voyant que cet homme avait la foi, il lui dit, maintenant prends ton lit et marche. Et l'homme se met à marcher. C'est pas miraculeux, ça ? C'est ça le don de la foi. Et ça, Dieu peut nous le donner. Moi, je peux dire, rarement, mais je peux dire que je l'ai vécu plusieurs fois avec Myriam. dans notre vie. Ah, c'est quelque chose. Je peux vous dire que ça vous donne un coup de booster. Passez-moi l'expression. Je termine en conclusion. Je reviens au texte que nous avons lu à l'origine. Ainsi parle Dieu, parle ton Sauveur, parle Jésus, parle l'Esprit de Jésus qui est là ce matin. Eh oui. Quand il se trouve du jus dans une grappe, encore un petit peu. Vous savez que la grappe ou le grain, il est tout fripé, ça arrive. Hein. Il y en a qui attendent pour faire les vendanges que ce soit non pas seulement fripé, mais que ce soit congelé et qu'il ne reste plus grand-chose. Hein. C'est le vin tardif. Hein. Donc, quand il se trouve encore du jus, on dit ne détruis pas. Moi, je peux laisser tout tomber. Mais l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu me dit non, attends. Et moi, je voudrais vous encourager à attendre encore. Et vous allez peut-être venir me voir après en disant, mais j'attends depuis si longtemps. Et moi, ça me fatigue. Je n'en peux plus. Eh bien, moi, je vais vous répondre, attends encore. Parce que quand Dieu n'a pas dit non, catégoriquement, quand il n'a pas dit oui, catégoriquement, il nous dit quoi? Attends. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et le quelque chose qui se prépare, tu ne sais pas. Parce que les choses ne sont peut-être pas encore tout à fait finies pour toi, pour ton plus grande bénédiction et véritablement pour que tu en sois heureux. Il se prépare des choses dans le ciel pour chacun d'entre nous hein, et pour notre vie sur cette terre. Hein. Et ça, je crois qu'il faut le comprendre. Le Seigneur dit, mais attends, il y a quelque chose qui va se préparer. Ça peut être des choses matérielles, ça peut être des choses aussi qui nous touchent les uns avec les autres. Hein. Il dit, c'est pas prêt. Alors, si tu prends un fruit, un raisin qui est mûr, hein, qui n'est pas mûr, pardon, qui est vert, eh bien, ça fait grincer des dents. Voilà. Donc, il faut attendre. Car Dieu nous dit, il y a encore là une bénédiction, mes frères et sœurs. Vous avez entendu ce message. Moi, je voudrais vous dire qu'il y a encore là une bénédiction. Et ne soyez pas hâtifs, ne soyez pas impatients, parce que le meilleur est encore à venir. Et vous allez voir, quand Dieu donne la bénédiction et qu'il ouvre la porte de cette bénédiction-là, eh bien, on pleure de joie. Ah oui, pour moi, c'est quelque chose, c'est une belle expérience. Je pense que certains vous l'avez expérimenté. Et Dieu nous dit, mais c'est pour les jours d'aujourd'hui. C'était pour les jours d'hier. Ça sera pour les jours de demain. Là où tu attends demain, la bénédiction de Dieu. J'agirai de même pour l'amour de mon fils, de ma fille, de mes serviteurs, d'une manière ou d'une autre, afin de ne pas tout détruire. La volonté de Dieu, ce n'est pas de tout détruire. Quand on trouve du jus dans une grappe bien juteuse, on dit ne la détruis pas, laissons-la intacte car elle promet encore du bon vin. Oui, une bénédiction est en elle, car c'est un fruit béni. Ainsi, je ferai de même pour mes serviteurs, mes enfants, mon Église. Comptons sur le Seigneur pour toutes nos délivrances. Que Dieu nous donne sa grâce. Ainsi, les raisons d'espérer sont devant vous. À travers cette simple parole que le Seigneur vous adresse. Amen. Ne baissez pas les bras. Il y aura encore quelque chose demain, dans un an, après nous, il y aura encore quelque chose. Parce que le Seigneur a déjà un plan. Restons les yeux fixés sur lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que nous savons que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Moi, je te remercie personnellement, Seigneur, lorsqu'il y a bien longtemps déjà, eh bien, tu m'as appelé, tu as mis sur mon cœur ta parole, tu m'as rendu capable de la lire. Et non seulement tu m'as rendu capable de la lire, mais tu m'as rendu capable par ton esprit de la comprendre. Et cette compréhension m'a amené à confesser mes péchés. Elle m'a amené à choisir Jésus comme mon sauveur personnel, pas une église. Pas une religion, mais Jésus. Et puis, en effet, me donner la possibilité, Seigneur, de naître de nouveau. Tu m'as donné la possibilité, Seigneur, d'être une nouvelle créature. Et les choses anciennes ont été passées. Et aujourd'hui, toute chose est devenue nouvelle. Et Seigneur, c'est pas m'arrêter en cours de route. Parce que moi, je sais qu'il y a encore du jus dans la grappe. Moi, je sais que pour mes frères et mes sœurs, il y a encore, en effet, eh bien là, quelque chose d'excellent que le diable voudrait nous dire que c'est fini. Mais toi, quand il nous dit c'est fini, toi tu dis ça commence. Et nous te remercions et nous te bénissons. Bénis mes chers frères et sœurs. Accorde-leur ta grâce. Encourage-les. Et quant à l'avenir de cette église, à Redon, à Saint-Nazaire, et puis bien d'autres endroits où véritablement nous sommes dans des temps difficiles, eh bien, Seigneur, toi, tu restes toujours le même, le maître et le souverain sur toutes choses. Et nous te remercions et nous te bénissons. Bénis abondamment, comme tu sais le faire, au nom de Jésus. Amen. Amen.